Mondes en VF présente Un cerf en automne d'Éric Lusseux. Copyright édition Didier 2013. Mon adagio pour trombone et orchestre, dites-vous? C'est à l'instant de traverser la forêt de B que l'idée m'en est venue. Je regagnais la maison après une brillante soirée de concert. L'Orchestre national de la Cine avait créé ma troisième symphonie pour cordes avec une force et une précision remarquables. Et comme d'habitude, les festivités associées à ce genre d'événement s'étaient prolongées jusque tard dans la nuit. J'avais quitté le théâtre vers 1h du matin, en compagnie du chef d'orchestre et du premier violon. Notre amitié datait de nos années d'études. Il était impossible de nous séparer tout de suite. Aussi, nous étions-nous accordés un délai supplémentaire afin de manger un morceau chez Maxence, au restaurant des arts. L'idée de cette dernière pause dans l'emploi du temps d'une trop longue journée me convenait à merveille. Je n'aime pas rouler le ventre vide. Ensuite, j'ai pris la route à bord de ma vieille Peugeot. Le parcours était long, monotone. Sans doute étais-je un peu ivre. Je n'avais pourtant bu que de l'eau durant le souper. Quant aux coupes de champagne que j'avais bien été forcé d'accepter à l'entracte puis après le concert, cela faisait longtemps qu'elle n'était plus qu'un souvenir. Non, si j'avais l'esprit un peu égaré, il fallait en chercher ailleurs la cause. Cela devait provenir des applaudissements qui avaient accueilli ma symphonie. Les rares succès que j'ai pu rencontrer dans ma carrière m'ont toujours un peu étourdi. L'esprit ailleurs, j'avançais à petite allure, si bien que le soleil se levait déjà, tandis que j'approchais de mon domicile. Un brouillard épais entoure l'automobile. À peine doré par la lumière matinale, il dissimule tout ce qui se trouve à moins d'un mètre du sol. À l'instant de pénétrer dans la forêt, j'aperçois une tête majestueuse, coiffée d'une ample ramure. On dirait qu'elle a été tranchée nette et posée sur une nappe blanche. C'est un cerf magnifique qui erre parmi les hautes herbes. Et soudain, le voilà qui lève le museau en direction du ciel et lance un brame solennel. Nous étions en octobre, le temps des amours était arrivé, et le vieux mâle criait sa solitude sur 5 notes graves, longues et mélancoliques. Il effectuait, entre les deux premières, ce lent glissando qui m'a donné l'idée de transcrire son chant pour le trombone. On aurait dit un couteau qui s'efforçait de déchirer la couverture épaisse du brouillard. J'ai arrêté l'automobile sur le bord de la route. J'ai ouvert mon vieux cartable pour y prendre une feuille de papier à musique. Puis je suis sorti et j'ai écouté avec attention la complainte de l'animal. J'ai noté d'abord, dans une sorte de fièvre, chaque accent de la phrase musicale. Ensuite, par petites touches, j'ai ajouté les réponses qui apportaient la nature tout entière, depuis les lamentations du vent jusqu'au chant des oiseaux dans les arbres. J'étais tellement concentré que je ne prêtais plus attention au mouvement du cerf. J'ai donc été un peu surpris de voir son gros mufle se poser soudain sur ma partition à l'endroit exact où j'avais placé le premier glissando du trombone. J'ai considéré un instant sa bonne tête pacifique, son gros œil rond, troué par le point noir de la pupille. Puis je lui ai posé la main sur les naseaux et l'ai doucement écarté du papier. L'animal s'est reculé sans protester. J'ai jeté à nouveau un regard à la partition. Une trace humide s'était déposée sur les portées à l'emplacement des violons. 3 gouttes d'une salive épaisse et brunâtre dessinaient une sorte d'accord, comme si une puissance inconnue était venu compléter l'harmonie dictée par la nature. J'ai observé un moment la forme que le hasard venait d'inscrire sur le papier. En fermant à demi les yeux, on parvenait à reconnaître un do, un ré et un fa. Il n'y avait là rien d'extraordinaire après tout. Je me demandais même comment j'avais pu ne pas y penser plus tôt. Pourquoi m'avait-il fallu l'aide de ce grand cerf pour placer ces 3 notes sur la portée? Et soudain j'ai compris. Avec le sol dièse du trombone, tout en haut de la partition, ces quelques sons formaient un motif que j'avais rencontré ailleurs, un motif qui était resté gravé en moi, mais dont mes yeux avaient depuis longtemps oublié le contour. Quand donc ai-je pu offrir ce foulard de soie à Kathleen? Était-ce à Dijon ou à Parme? À New York ou à Lausanne? J'ai oublié la ville, l'heure et le jour, mais je revois la scène avec une précision extrême. Nous sortons d'une salle de concert après une répétition particulièrement réussie. Il fait un temps superbe et le soleil vient incendier le visage de ma jeune épouse. Est-ce là un cadeau des dieux irlandais? Kathleen possède une magnifique chevelure rousse. D'ordinaire, la moindre lueur y fait danser des flammes, mais ce jour-là, la lumière est si intense que chaque mèche, chaque boucle semble brûler d'un bon feu clair. Au milieu de cette couronne éclatante, le visage prend des reflets de nacre, et les yeux verts jettent des étincelles. Kathleen me prend le bras. Dans un geste d'abandon enfantin, elle vient poser sa tête dans le creux de mon épaule. Sa chaleur douce se communique à mon corps usé, et je me sens soudain rajeuni, prêt à toutes les aventures. Nous venons de passer devant la boutique d'un grand couturier. Quelque chose m'a accroché le regard, quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'identifier. Des formes, une harmonie de couleurs. Je m'arrête. Entraînant Kathleen avec moi, je fais quelques pas en arrière, puis je colle mon nez contre la vitrine. C'est un foulard qui a attiré ainsi mon attention. Pareil à une algue, il semble flotter dans l'espèce d'aquarium gigantesque que forme la devanture. De chaque côté, des mannequins vêtus de combinaisons lunaires, orange, noisette ou kaki, ressemblent à des plongeurs égarés dans les fonds sous-marins. Le décorateur a disposé des galets, de gros coquillages ou des morceaux de corail sur de larges poignées de sable, jetés un peu au hasard. Est-ce là le détail qui suffit à créer l'illusion d'une promenade à bord du Nautilus? Je serais incapable de le dire. D'autant qu'une seule chose m'intéresse dans cette ambiance faussement aquatique, le foulard. Ce n'est pourtant qu'un carré de soie, mais j'y reconnais, perdu dans des entrelacs de rouille et d'émeraude, un visage connu, celui de Frédéric Chopin. Cinq lignes pâles courent quelques centimètres plus bas. Une portée, une clé de sol, puis les premières mesures du nocturne en si bémol mineur. Le groupe de notes que joue la main droite du pianiste. Kathleen s'impatiente à côté de moi, comme une enfant capricieuse. Elle cherche à deviner ce qui, dans la vitrine, a bien pu retenir mon attention. Enfin, ses yeux tombent sur le foulard. Elle lève le visage vers moi, pose sa main droite sur ma joue, puis d'un geste hésitant, elle se met à frapper les touches d'un piano imaginaire. Nous entrons dans le magasin. Depuis, en automne, Kathleen aimait à s'envelopper le cou dans ce foulard. Le matin, encore à demi endormie, je la voyais passer de la salle de bain à la chambre, de la chambre à la salle de bain. La serviette dans laquelle elle s'était enroulée finissait par laisser la place à un chemisier assez strict. Et une fois enfilé son pantalon d'équitation, une fois ses bottes chaussées, sa bombe enfoncée presque au ras des yeux, la dernière touche était ce carré de soie qu'elle se nouait autour du cou. Je vais monter Rihanna une heure ou deux, mon amour. Je t'ouvre les volets? Invariablement, je grognais quelque chose comme « Quelle heure est-il donc ?» Mais je la laissais faire, un sourire aux lèvres. Alors, la lumière hésitante du petit matin pénétrait dans la chambre. Kathleen, fin prête, venait déposer un baiser sur mon front. Je lui retenais la main un instant, murmurais un mot tendre ou deux, puis je la laissais rejoindre sa jument à l'écurie. Ah, Rihanna! C'était le sosie animal de mon épouse. Je les avais rencontrées toutes deux ensemble lors d'une balade autour de Derrycleer Lough, en Irlande. Je m'étais aventuré trop loin parmi les hautes herbes qui bordent le lac. À l'instant de faire demi-tour, je m'étais perdu au milieu d'épais buissons. C'est alors que Kathleen et sa jument avaient surgi, soudées l'une à l'autre, comme si elles étaient inséparables. « Are you lost, sir ?» Me protégeant les yeux de la main, je contemplais la jeune femme à contre-jour. « No, but I think I presumed my strength. » Ai-je tenté de répondre dans mon anglais hésitant. Elle a immédiatement compris que j'étais fatigué de me battre contre les branches, contre les épines. J'avais les mains couvertes d'égratignures. Elle a aussi deviné, bien sûr, que j'étais français. Elle est descendue de cheval et a poursuivi notre conversation, mais cette fois dans ma langue. Elle n'avait qu'un léger accent, sensible surtout dans sa façon de prononcer les U et les OU. « Vous avez pris une chambre au manoir de Clonakatan ? » a-t-elle demandé. C'était effectivement le cas, et comme je hochais la tête en guise de réponse, elle a aussitôt ajouté « Je vais vous raccompagner là-bas. À pied, nous en avons pour 2 petites heures. » En chemin, nous avons échangé quelques banalités, puis nous en sommes venus à évoquer nos métiers respectifs. Elle, sculptrice, moi, compositeur. Je garde encore sur mon bureau le petit buste qu'elle a modelé à mon image, ce jour-là. Nous nous étions arrêtés à mi-parcours pour une courte pause près d'un ancien tumulus celte. Après m'avoir regardé longuement, elle a pris soudain une poignée de terre. Elle s'est détournée un instant, pour cracher dans ses mains, je suppose, puis elle a malaxé la glaise, en y appuyant ici le pouce, là l'index. L'opération ne lui a pris que quelques minutes. Et c'est, je crois, à la seconde précise où elle a tendu vers moi le résultat de son travail qu'un bouleversement s'est produit. Il m'a suffi de croiser son regard, de frôler sa main qui tremblait un peu sous la mienne, de toucher cette figurine d'argile encore humide qu'elle avait chauffée de ses doigts. Je venais de tomber fou amoureux d'elle.